Il y a quelque chose de vraiment fascinant quand on tombe sur un vieux testament familial, tu trouves pas?
Ah ouais, le genre de document tout poussiéreux, oublié au fond d'un tiroir.
Exactement. Le truc où tu t'attends juste à découvrir qui va hériter de la vieille horloge ou d'un petit bout de terrain.
C'est ça. En général, c'est juste des querelles hyper locales, quoi.
Voilà. Mais imagine un instant que ce document se mette soudainement à tracer les frontières des futurs continents entiers.
Waouh, ouais, ça change d'échelle.
Carrément. Imagine que ce papier prédise avec précision l'ascension, mais aussi la chute d'empires colossaux, et qu'il cartographie les conflits géopolitiques qui vont déchirer le monde des millénaires plus tard.
C'est une image hyper puissante. Ça transformerait une simple dispute de famille en une véritable carte prophétique, en fait.
Ouais, et c'est une excellente porte d'entrée pour ce qu'on va aborder aujourd'hui, parce que c'est exactement le cœur de notre exploration en profondeur pour ceux qui nous écoutent.
Tout à fait.
On plonge directement dans les origines géopolitiques et linguistiques de l'humanité, telles qu'elles sont décrites dans les chapitres 9 à 11 du livre de la Genèse.
Des textes qu'on a souvent tendance à survoler, d'ailleurs.
Grave. Et pour ça, nos sources s'appuient sur la 17e conférence d'histoire de l'Ancien Testament, qui a été donnée par le chercheur Robert Van Hoy.
Un chercheur très pointu sur ces questions.
Très pointu, ouais. La mission de cette analyse aujourd'hui, c'est de décoder comment ces textes antiques, qu'on balaie souvent d'un revers de la main comme des petites allégories, expliquent en réalité la mécanique des dynamiques de pouvoir.
Et même l'architecture de l'orgueil humain.
Ce texte n'est définitivement pas qu'un vieux parchemin mythologique, c'est le plan d'architecte des premières superpuissances mondiales.
C'est clair. Et ce qui frappe le plus dans l'analyse de Van Hoy, c'est la fluidité avec laquelle le texte passe du micro au macro.
Ouais, c'est assez dingue.
Il lie un drame familial extrêmement intime à des mouvements de population massifs à l'échelle du globe. Pour bien saisir comment l'humanité s'est dispersée, il faut impérativement examiner la querelle fondatrice.
Celle qui a dessiné la carte du monde antique.
Exactement. Une carte qui commence par une situation pour le moins, chaotique, quoi. Le réveil difficile de Noé.
Ah oui, le fameux incident de la tente. On se trouve dans la Genèse au chapitre 9.
C'est ça.
Noé émerge d'un sommeil, disons, bien alcoolisé, et il découvre l'acte irrespectueux de son plus jeune fils, Cham, et là, il prononce une malédiction lourde de conséquences.
Très lourde, oui.
Mais le texte fait un saut qui semble complètement illogique à première vue. La malédiction ne tombe pas sur le coupable direct.
Non, en effet.
Noé déclare, je cite, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères ». Sauf que Canaan, c'est le fils de Cham.
C'est le petit-fils, du coup.
Voilà. Et quand on scrute la généalogie au chapitre 10, les frères mentionnés, qui sont en fait ses oncles, s'appellent Cush, Mitzraïm et Put.
Et ces noms-là, ils résonnent bien au-delà d'une simple fratrie. L'histoire et la linguistique nous montrent que Mitzraïm, par exemple, c'est la translittération hébraïque exacte du terme qui désigne l'Égypte antique.
Ah oui, quand même.
Ouais. Cush est géographiquement lié à la Mésopotamie ou à la région de l'Éthiopie moderne, et Put représente les territoires de l'Afrique de l'Est.
C'est massif.
Et d'ailleurs, les sources insistent sur un détail linguistique super révélateur. Pas mal de noms dans cette section portent la terminaison en « im ».
Comme Ludim ou Mitzraïm, justement.
Voilà.
Ce qui est la marque du pluriel en hébreu.
Oui.
Donc, le texte ne parle plus d'individus, il parle d'emblée de nations entières. Noé s'adresse à des foules qui n'existent même pas encore.
C'est vraiment le point crucial ici. Et la conséquence géographique de cette déclaration, elle est tragique pour les descendants de Canaan.
Ouais.
Historiquement, le territoire cananéen s'est retrouvé complètement coincé, géographiquement et politiquement.
Asservi par les grandes puissances de l'époque.
C'est ça, la Mésopotamie d'un côté et l'Égypte de l'autre. Les Cananéens étaient perpétuellement écrasés entre les deux.
Mais c'est la définition même de la zone tampon.
Absolument.
Et on sait à quel point l'histoire est cruelle avec les zones tampons. Ce sont les territoires qui se font constamment piétiner par les armées des empires voisins, écrasés entre des ambitions qui les dépassent.
C'est un schéma classique, malheureusement.
Ouais, mais attends, ça ramène à une question de justice fondamentale quand on y pense.
Laquelle ?
Pourquoi maudire le petit-fils Canaan ? Et pas Cham qui a commis la faute. Je veux dire, laisse pas juste un père en colère qui s'emporte et qui frappe aveuglément la cible la plus proche.
C'est vrai que cette impression de colère aveugle est compréhensible. Mais l'analyse de Van Hoy propose une lecture bien plus profonde.
D'accord.
Il avance que c'est pas un dérapage émotionnel, mais une déclaration prophétique sous l'inspiration de l'esprit.
Ah, donc il y a une vraie vision derrière.
Ouais. L'idée, c'est que Noé aurait perçu, dans le comportement de Cham, des traits de caractère profondément immoraux. Des traits qui, au fil des générations, allaient s'amplifier et carrément devenir la norme culturelle de ses descendants, les Cananiens.
Donc une trajectoire morale descendante. Et c'est d'ailleurs confirmé bien plus tard dans le texte, non ?
Tout à fait.
Si on consulte le livre du Lévitique, au chapitre 18, les pratiques culturelles et morales des Cananiens y sont décrites avec une précision assez sordide en fait. Ça implique des pratiques extrêmes.
C'est exact.
Du coup, la malédiction apparaîtrait plutôt comme l'annonce d'un assujettissement historique qui serait la conséquence directe de cette corruption morale systémique.
C'est la mécanique même de cette prophétie. Elle annonce juste le résultat inévitable d'une décomposition culturelle.
Ok, donc ce plan géopolitique a scellé le destin de Canaan, mais il a aussi tracé une trajectoire fascinante pour ses oncles, Sem et Japhet.
Et pas qu'un peu.
C'est là que ça devient vraiment fascinant, parce qu'on observe un phénomène historique paradoxal, celui où la conquête militaire brute aboutit, en fin de compte, à une assimilation religieuse.
Ouais, regardons la formulation des bénédictions. Pour Sem, elle est unique dans ce contexte antique. Le texte dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem ».
Ce qui est super spécifique.
C'est la première fois dans les Écritures qu'une association nominale est faite entre Dieu et un groupe humain spécifique.
D'accord.
Cette déclaration pose vraiment les bases de ce qui deviendra la lignée d'Abraham. Et de l'autre côté, on a Japhet.
Japhet, que les sources historiques associent aux Grecs à travers Javan et aux Mèdes, c'est ça, hein ?
C'est ça. Et la prophétie déclare que Dieu élargira le territoire de Japhet et qu'il habitera dans les tentes de Sem.
Alors attends. À première vue, habiter dans les tentes, ça sonne un peu comme une métaphore pacifique, genre une cohabitation harmonieuse.
Ouais, ça a l'air sympa dit comme ça.
Mais l'analyse textuelle prouve complètement le contraire. Quand on lit des textes comme le Psaume 78 ou un Chronique 5, s'installer dans les tentes d'un autre, c'est en fait une image employée pour décrire une armée victorieuse qui s'empare des campements ennemis.
Une occupation militaire, quoi.
Exactement, c'est synonyme de conquête.
Et l'histoire profane vient d'ailleurs valider cette interprétation d'un élargissement territorial par la force.
Comment ça ?
Mais les Grecs, sous l'impulsion foudroyante d'Alexandre le Grand, suivis plus tard par toute la machinerie militaire romaine, ont effectivement conquis et occupé le territoire de Sem, c'est-à-dire le Levant et Canaan.
Et c'est là qu'opère ce qu'on pourrait appeler un véritable cheval de Troie spirituel.
C'est une super analogie.
Les Grecs et les Romains arrivent en vainqueurs physiques. Ils envahissent les tentes de Sem avec leurs phalanges, leurs légions. Ils imposent leur volonté par la force. Mais en occupant cet espace, ils sont exposés à la culture et à la théologie sémitique.
Et ils se font avoir à leur propre jeu.
Exactement. Les vainqueurs militaires finissent par être spirituellement et intellectuellement conquis. Ils intègrent les concepts religieux de leurs sujets.
Jusqu'à recevoir la connaissance du Christ, en fait.
Oui, par le biais de ces mêmes populations qu'ils pensaient juste dominer au départ.
C'est une dynamique historique saisissante. La victoire militaire ne garantit absolument pas la pérennité culturelle.
C'est fou!
Ces courtes phrases qui ont été prononcées dans une tente des millénaires plus tôt, elles encodent une vérité hyper complexe. Des empires peuvent triompher politiquement tout en recevant leur plus grande transformation philosophique des peuples vaincus.
Mais du coup, cette mécanique de conquête et d'assimilation, ça soulève une question pratique évidente.
Vas-y.
Comment ces différentes lignées se sont-ils initialement réparties sur le globe pour que ces interactions aient lieu ?
Ah, la fameuse répartition.
Ouais.
C'est ce qui rend le chapitre 10 de la Genèse, la table des nations, absolument incontournable. Une fois le destin des trois lignées posé, le texte déploie un catalogue vertigineux de leur expansion mondiale.
Et il faut souligner à quel point ce document est une anomalie totale dans la littérature de l'Antiquité.
Ah ouais ? À ce point ?
Absolument. Aucune autre culture ancienne ne possède un tel document. On a des mythes fondateurs un peu partout, des cosmogonies.
Bien sûr.
Mais aucun arbre généalogique mondial qui tente de retracer l'unité fondamentale de l'ensemble de la race humaine, jusqu'à trois ancêtres communs.
C'est vrai que la structure de ce chapitre est hyper méthodique. On y retrouve ces fameux suffixes en « it », les Jébusiens, les Amoréens, les Iviens.
C'est ça.
Et l'analyse montre que ces termes fonctionnent exactement comme nos désignations modernes de nationalité. Ce sont des groupes ethniques vastes.
C'est exactement le même principe.
Pourtant, au beau milieu de ce recensement sociologique très organisé, le texte fait un arrêt sur image brutal au verset 8. Il y a une exception flagrante avec le nom de Nimrod.
Ouais, la rupture de rythme, elle est intentionnelle. Soudain, on parle plus d'une nation entière, mais d'un individu très singulier.
Un seul gars au milieu des nations.
Voilà. Le texte le qualifie de « vaillant chasseur » et précise qu'il est l'architecte d'un royaume tentaculaire en Mésopotamie. Un royaume qui englobe des cités majeures comme Babel, Erech, Akkad et Ninive.
C'est énorme. Mais le mystère plane toujours sur son identité historique exacte, non ?
C'est vrai. Les sources de Vonneuil, en s'appuyant sur des historiens comme Finnegan, suggèrent des parallèles avec des figures colossales comme Naram-Sin d'Akkad.
Vers 2220 avant notre ère, c'est ça?
Ouais, à peu près. Mais au-delà de son identité, la présence même de ces détails géopolitiques soulève un défi critique majeur pour l'analyse du texte.
C'est-à-dire?
Eh ben, si Moïse est considéré comme l'auteur ou le compilateur de la Genèse, comment pouvait-il décrire des frontières, des villes et des figures politiques qui ont existé des siècles, voire des millénaires avant sa propre naissance?
Ah, bah oui.
C'est une impossibilité technique, à moins d'invoquer une dictée divine mot pour mot, hors du temps.
C'est clair que sans machine à remonter le temps, ça coince. Et ce défi méthodologique, il est au cœur des débats académiques pour quiconque s'intéresse aux textes anciens.
Exactement. Et c'est ici qu'il faut clarifier l'approche expliquée dans les sources. Beaucoup de critiques modernes expliquent la précision ou les supposées contradictions du texte par ce qu'on appelle la théorie documentaire.
La fameuse.
En simplifiant, cette théorie suggère que la Genèse a été cousue de toutes pièces bien plus tard par différents auteurs anonymes, souvent désignés par du jargon comme les sources J ou P.
D'accord, donc des documents séparés qui auraient été mélangés.
C'est ça. Ils auraient mélangé leurs propres traditions. Mais la perspective de Van Wy défend une approche radicalement différente du travail de Moïse.
Bah oui, il ne faut pas l'imaginer assis sur une montagne, agissant comme une simple machine à écrire sous la dictée de Dieu, quoi.
Exactement. Il faut concevoir Moïse comme un historien méticuleux œuvrant avec des matériaux bien réels.
Des archives, en gros.
Voilà. Tout indique qu'il a rassemblé, étudié et compilé des archives écrites extrêmement anciennes. Peut-être des tablettes d'argile préservées par les générations précédentes, tout comme l'auteur de Samuel ou des Rois l'a fait plus tard.
C'est une démarche d'historien classique, en fait.
Tout à fait. La spécificité, dans la tradition théologique étudiée, c'est que ce travail de recherche titanesque aurait été encadré par le Saint-Esprit, pour garantir l'absence d'erreur, quoi.
C'est un changement de paradigme complet sur la façon de lire ce document. Moïse travaillait avec des sources antérieures, et dans ses archives, la figure de Nimrod s'impose comme l'architecte du bâtisseur d'empire.
Un personnage incontournable.
C'est lui qui prépare le terrain psychologique et politique pour l'événement le plus critique de cette époque, celui centré autour d'une de ses cités, Babel.
Et le texte opère d'ailleurs un retour en arrière narratif au chapitre 11. La table des nations, au chapitre 10, a décrit le résultat.
Un monde rempli de peuples et de langues différentes.
C'est ça. Le chapitre 11, lui, intervient pour expliquer le mécanisme qui a causé cette diversité. Et tout gravite autour d'un projet d'ingénierie colossal dans la plaine de Shinéar, la fameuse tour de Babel.
Ouais. Et les constructeurs utilisent ce qui se fait de mieux, à l'époque, en matière de technologie. On parle de briques, cuites au four, pour une durabilité maximale, et de bitume en guise de mortier.
Et là, l'analyse linguistique frappe un grand coup et détruit une image hyper tenace.
Ah ouais? L'image de la ziggourate, c'est ça?
Exactement. Dans l'imaginaire populaire, on associe presque systématiquement Babel aux ziggourates de Mésopotamie, ces immenses temples à degrés dédiés au culte.
Une association très répandue, c'est vrai, mais qui pose un gros problème tant sur le plan chronologique que linguistique.
Ouais. Les grandes ziggourates d'Urnammu ou d'Amurabi, qui ont été bâties vers 1700 à 2000 avant notre ère, elles sont beaucoup plus tardives que le récit de Babel.
Mais la clé, en fait, elle réside dans le mot hébreu utilisé dans le texte, Migdol.
Et ce terme change absolument tout.
Ah ça, c'est clair. Si on analyse d'autres textes anciens où Migdol apparaît, comme dans le Deutéronome lorsqu'il décrit, je cite, « des villes murées jusqu'au ciel », le terme ne désigne pas du tout un édifice religieux.
Non, pas du tout.
Il implique une forteresse défensive. C'est une architecture purement militaire. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie?
L'objectif des bâtisseurs, tel que c'est décrit, c'est de se faire un nom et de refuser de se disperser. C'est la définition même de la concentration du pouvoir.
Pour bien visualiser le concept, faut oublier l'idée d'un escalier romantique construit par des naïfs voulant toucher les nuages. Babel, c'était l'équivalent antique du Pentagone ou d'une étoile de la mort.
Ouais, c'est une sacrée forteresse.
C'était un centre de commandement militaire et politique hyper centralisé. Le mécanisme est simple. En regroupant toute la population autour d'une forteresse unique, on s'assure un monopole total sur la force et les ressources. C'est l'infrastructure d'une tyrannie absolue, quoi.
L'analyse est sévère, mais elle est juste. C'est vraiment l'incarnation d'un pouvoir humain déconnecté de Dieu.
C'est ça.
Ça rappelle l'obsession de puissance des fameux hommes de renom d'avant le déluge, tu sais, dans Genèse 6. La tour n'était pas un élan religieux, c'était le summum de l'orgueil humain et de la volonté d'un contrôle totalitaire.
Et face à cette volonté terrifiante d'instaurer une dictature mondiale centralisée, une intervention devenait inévitable.
Il fallait briser ce monopole.
Ouais. Une intervention divine radicale était la seule solution pour forcer l'humanité à accomplir sa mission d'origine. Et la méthode utilisée a généré le grand puzzle que les anthropologues étudient encore aujourd'hui.
La naissance des langues.
Exactement. Le fascinant chaos linguistique moderne.
Et la mécanique de cet événement provoque un débat super passionnant au sein des sources.
Ah oui, c'est un véritable casse-tête de causalité. L'intervention provoque la confusion des langues. Mais est-ce cette confusion subite qui a rendu la coopération impossible et forcé la dispersion physique ?
Ou bien l'inverse ?
Voilà, ou bien est-ce une séparation physique brutale qui, en isolant les populations, a entraîné la formation de nouveaux dialectes ? C'est la grande question. Les chercheurs avancent trois modèles principaux pour expliquer cette mécanique. La première théorie postule une intervention directe sur les structures cognitives.
C'est la théorie la plus acceptée en général.
Ouais. La langue est instantanément modifiée par Dieu, le chaos communicationnel s'installe et les groupes fuient les uns les autres. Ça cause la séparation.
Et la deuxième théorie ?
Elle prend le chemin inverse. Une dispersion physique, mystérieuse, a lieu d'abord, et c'est là qu'intervient la mécanique de la linguistique liée à l'isolement.
D'accord.
Quand un groupe est isolé par une chaîne de montagnes ou un désert sur plusieurs siècles, un son A glisse vers un O, les consonnes s'adoucissent, la grammaire mute, et la langue devient incompréhensible pour les lointains cousins.
Ce qui nous amène logiquement au troisième modèle, qui est une théorie de synthèse particulièrement solide.
Un mélange des deux.
C'est ça. Elle suggère une intervention initiale limitée, la création d'un petit nombre de langues souches qui provoquent la fracture originelle de Babel.
Ok.
Ensuite, les migrations ont lieu et l'évolution linguistique naturelle, ces fameux glissements phonétiques et grammaticaux dus à l'isolement, prend le relais pour créer la diversité actuelle.
C'est époustouflant quand on croit ça avec la linguistique moderne. La langue, c'est tellement vivant. L'anglais ou le français d'il y a 400 ans est à peine compréhensible aujourd'hui, tu vois.
C'est très juste.
Les chercheurs d'aujourd'hui s'accordent à dire que des dizaines de langues modernes, aussi différentes en apparence que l'anglais, le russe ou l'hindi, descendent toutes d'une même matrice, la souche indo-européenne.
Tout à fait.
Exactement la même histoire sur l'existence de ces langues souches.
Oui, des travaux fascinants.
Il a identifié des ponts structurels stupéfiants entre des idiomes que tout sépare géographiquement, comme le sumérien, l'égyptien, et même des langues d'Amérique centrale et du Pacifique.
Quand on observe ces connexions à grande échelle, la convergence est difficile à ignorer. Si on le relie cela à une perspective plus large,
vas-y.
On voit très bien comment la science anthropologique de l'évolution du langage s'aligne parfaitement avec l'idée d'une intervention initiale.
C'est clair.
Une fracture qui a scindé l'humanité en quelques grands troncs linguistiques qui se sont ensuite ramifiés organiquement au gré des déplacements de population sur tous les continents.
Quel périple analytique on vient de faire. Pour synthétiser cette immense quantité d'informations, on est passé d'une querelle filiale dictant la géopolitique de l'Antiquité, avec ses zones tampons,
ouais.
Puis au travail de recherche historique de Moïse sur l'arbre généalogique mondial, pour finir devant une forteresse militaire d'orgueil humain.
La fameuse tour.
Brisée par la naissance des langues souches de notre monde. Et c'est un rappel crucial pour ceux qui nous écoutent.
Vraiment crucial, ouais.
Les textes antiques, ce ne sont pas des simples mythes poussiéreux. Ils contiennent les fondations même de notre carte politique, de nos comportements tyranniques et des mots qu'on utilise chaque jour.
Et toute cette étude historique mène inévitablement à une réflexion finale assez vertigineuse sur notre époque contemporaine, dérivée de nos sources, mais poussée un peu plus loin.
Je t'écoute.
Les dynamiques décrites dans ces sources soulignent que la mondialisation actuelle et l'émergence d'une langue globale comme l'anglais, ça ralentit, voire ça inverse la diversification des langues.
C'est vrai, tout s'uniformise.
Ça soulève une question majeure. Avec la communication mondiale instantanée et la traduction simultanée par l'IA, l'humanité n'est-elle pas, d'une certaine façon, en train d'annuler la dispersion de Genèse 11 ?
Oh, waouh !
Que se passera-t-il si, d'une certaine manière, le monde entier finit par parler une seule langue et rebâtir une Babel numérique ? Une réflexion qu'on laisse à l'esprit de quiconque aime connecter le passé lointain à notre futur immédiat.